Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Attends. Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonsoir, bienvenue dans votre nouveau numéro de Tonnerre de Brecht. Ce soir, un entretien entièrement consacré au spectacle « On ne dit pas j'ai crevé » d'Enora Boel et Robin Lescouette, qui se jouera ce vendredi 10 décembre à 19h au Théâtre de la Paillette. Enora Boel, bonjour. Merci de me recevoir chez vous au Théâtre de Poche à aider pour votre nouvelle création « On ne dit pas j'ai crevé ». Dans un article de théâtre avec Rice, entre parenthèses, il est écrit que depuis Moi Canard, une thématique globale se détache des créations, qui est la construction de l'identité. Est-ce que c'est une volonté de votre part de travailler là-dessus ou c'est venu un peu par hasard ?
Non, c'est vraiment une volonté en fait, parce que je suis partie de... c'est à partir de Moi Canard, donc qui est une réécriture du conte du vilain petit canard. Par Ramona Badescu, une autrice de littérature jeunesse à qui j'avais passé commande pour ce texte. Et vraiment, le vilain petit canard, c'est ça comme histoire, en fait. Beaucoup le voient comme accepter la différence de l'autre, mais moi, je le vois plutôt comme revendiquer sa différence et vraiment s'accepter tel que l'on est vraiment et chercher à trouver les gens avec qui on est bien pour vivre pleinement sa vie. Et Ramona utilise une expression que je réutilise souvent, c'est « trouver le courage d'être soi ». Et dans Le vilain petit canard, c'est vraiment ça dont il est question. Et après, dans le deuxième spectacle, j'ai écrit une chanson pour MacGyver. Ça parlait d'adolescence, donc par le prisme de mon adolescence. Mais là, c'est aussi trouver le courage d'être soi, parce que quand on est adolescent, on a à la fois très fort envie de ressembler aux autres, et en même temps très fort envie de s'affirmer en tant qu'individu unique. Et on ne dit pas j'ai crevé, c'est aussi trouver le courage de vivre en acceptant sa propre mort, en fait, et en la regardant en face. Et ce qui, il me semble, permet de mieux vivre.
Il y a l'évocation aussi pendant le spectacle « On ne dit pas j'ai crevé » de toute la vie du personnage ou de vous, du coup. Vous dites que vous êtes plusieurs personnes dans une vie, quoi.
Bah si, c'est ça, la réplique, c'est « Et tu étais quoi ? Une personne ou même plusieurs personnes ?» Et effectivement, après, je décris, au début, j'étais une enfant, le monde était complètement fou, c'était un immense terrain de jeu. Après, j'étais une adolescente, c'était plus compliqué, puis une jeune adulte avec des rêves et des envies, puis encore une adulte avec toujours des rêves et des envies. Chaque minute qui passait, finalement, j'étais quelqu'un de différent avec des morceaux de la précédente dedans. Mais bah, parce que c'est vrai, il me semble qu'on a l'impression de vouloir être quelqu'un et de fixer une identité, mais les rencontres, les expériences de la vie font qu'on est plusieurs personnes dans une même vie, mais que ces totalités de personnes font ce qu'on est vraiment. Et qu'on n'oublie pas, enfin moi par rapport à l'enfance par exemple, j'oublie pas l'enfant que j'ai été, elle m'accompagne encore très fortement, et je pense que c'est hyper important de garder ça en tête.
En fait, ce qui est important, c'est de faire face à toutes les étapes de la vie un peu, même la mort du coup.
Mais oui, ouais, surtout la mort. Moi, je me rends compte que mon expérience avec la mort m'aide à vraiment à vivre. Enfin, je sais pas, c'est une forme de résilience, je pense, et c'est une forme d'accepter un peu toutes les épreuves de la vie comme des forces supplémentaires, finalement. Et c'est toujours en lien avec l'identité, la recherche d'identité, la recherche de qui on est, en fait.
Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur la scénographie du spectacle, notamment la présence des lettres FIN qui sont plus ou moins en permanence allumés pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas vu le spectacle.
En fait, on a choisi, je dis on parce que j'y ai réfléchi avec l'auteur du spectacle qui est Robin Lescouette. Et donc cette scénographie, au départ, on y a réfléchi un peu ensemble. Après, moi, j'ai continué mon chemin un peu toute seule vis-à-vis de ça. C'était la question de où est-ce que ça se passe, puisqu'en fait, on est le temps du spectacle commence... à la mort du personnage principal, enfin du personnage seul en scène, et se termine à la fin de la cérémonie funéraire. Donc il y a différents temps et différents espaces dans le spectacle. On peut imaginer à l'hôpital, au moment où on annonce la mort, après chez la thanatopractrice, donc qui a sur les soins, sur le corps, ensuite au funérarium et ensuite dans la salle de cérémonie. Et donc je voulais un espace vide. Moi, j'aime beaucoup les espaces vides. Dans mes précédents spectacles, j'ai vraiment pas de décor du tout. mais il me semblait que cette il y a une table donc en métal un peu inox à roulettes qui sert à la fois de table de soins en thanatopraxie ou de table d'hôpital ou alors de table pour poser le cercueil ou de table qui emmène le cercueil on ne sait pas où, soit au cimetière, soit dans l'incinération, voilà, qui s'en va dans l'au-delà. On pourrait imaginer un peu qu'on est dans des limbes entre la vie et la mort, entre cet entre-deux, avant que le corps vraiment s'en va. C'est vrai que c'est presque clinique comme scéno, ça peut être très froid dans les matériaux, parce qu'il y a l'inox de la table, le tapis de sol blanc, et cette enseigne lumineuse, donc avec le mot fin. Petite information par rapport au texte, il n'y a à aucun moment le mot mort. Mais ça, pour les gens, des fois ne le savent pas forcément, mais en fait, on le nomme à aucun moment parce qu'on a vraiment eu envie de parler de la fin de quelque chose. Et c'est pour ça que ce mot, cette enseigne lumineuse a été pensée. On peut l'avoir de différentes manières. Ça peut être une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On sait qu'on l'a tous au-dessus de nous, hein, cette fin. Elle nous attend toutes et tous. Et en même temps, elle est joyeuse. Enfin, elle est lumineuse. Elle envoie de la lumière, quelque chose de fort quand même. Et esthétiquement aussi, ça donne une forme de couvercle sur cette boîte dans laquelle je suis un peu enfermée en fait, dans cet entre-deux, entre la vie et la mort, entre la salle et les coulisses. Voilà, il y a ce drap d'or aussi qui est très présent et qui amène aussi de la lumière et de la joie et de la vie, il me semble, du mouvement en tout cas.
Tu travailles depuis 15 ans avec Robin Lescouette, qui est l'auteur de la pièce du coup, dont tu es la matière principale. C'est toi qui le dis. Et quand est-ce qu'a commencé le travail d'écriture et comment il s'est passé du coup ?
Alors moi déjà, je voulais, là pour le coup, je savais vraiment que c'était un spectacle jeune public. Donc tout public, parce que je sais que quand des adultes le voient, l'expérience des adultes avec la mort n'est pas la même du tout qu'avec les enfants, puisqu'on souhaite en tout cas aux enfants de ne pas avoir été trop en contact encore dans leur jeune âge avec ça. Mais on sait que plus le temps avance, plus on est en contact avec des gens qui meurent autour de nous. Moi, j'ai commencé d'abord à faire des ateliers philo en classe avec des élèves pour leur parler de la mort, parce que j'avais besoin de connaître leur rapport à eux, à la mort. Et je me suis rendu compte, donc c'était pas moi qui menais les ateliers, hein, c'était une médiatrice en philosophie, et moi j'écoutais et je prenais des notes. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'on n'a pas du tout le même rapport. Eux, ils sont dans quelque chose de beaucoup plus décomplexé, et nous, adultes, on est dans quelque chose de beaucoup plus tabou. Et je me suis dit, mais en fait, il faut qu'ils sachent en fait ce qui se passe. En fait, il y a besoin de concret, il y a besoin de... Parce que les enfants, on essaye de les épargner parfois. Quand il y a des morts, elle est partie, elle est montée au ciel, et ce truc, elle est partie. En fait, non, elle n'est pas partie, parce que partir, on peut revenir. Quand on meurt, on ne revient pas. Moi, j'avais besoin, étant maman également, j'ai toujours parlé des choses de manière très direct et très factuel. Et voilà, et on est parti dans cette idée de décrire vraiment au maximum concrètement ce qui se passe. Parce que ça aide aussi, je pense, de savoir ce qui se passe concrètement. Après, ça, rien n'empêche le deuil et la souffrance et le chagrin. Mais en tout cas, voilà. Et puis de parler à la place du mort, parce qu'on sait bien que le plus difficile dans la mort, c'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Donc c'est essayer de mettre un peu du baume pour les vivants en fait.
Le fait de ne pas du tout citer le mot mort dans le spectacle, est-ce que c'est pas une façon aussi d'être dans le déni de celle-ci ?
Alors on pourrait penser ça, mais c'était pas du tout l'objectif. Ça nous a permis, en tout cas ça a permis à l'auteur de décrire au maximum et de manière la plus précise possible les choses. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, quand tu parles de ça, on met pas le mot, et ben ça peut faire écho à d'autres situations de fin en fait, une rupture. Des fois, il y a des phrases qui font écho et qui ne parlent pas du tout de la mort, en fait, qui parlent de la fin de quelque chose. Et du coup, des deuils à faire. Et en fait, c'est, dans la vie, il y a plein de mini-deuils. En fait, on fait plein de mini-deuils sur un boulot, sur une histoire amoureuse. Il y a plein de mini-morts. Et donc, il y a... on focalise sur cette idée de mort, mais finalement, on peut l'avoir aussi de manière plus universelle, cette notion de fin, en fait, la fin de quelque chose. Et qui dit fin, qui dit début aussi, et du coup, voilà, le cycle de la vie, et on reprend courage.
Et bah, il y a de nombreux personnages qui viennent au cours du spectacle. Il y a la thanatopractrice, et là où le conseiller funéraire, on ne sait pas. Et du coup, la présence aujourd'hui de tous ces gens lors de la mort de quelqu'une ou quelqu'un, sont-ils de nouveaux rituels du coup pour éloigner encore plus la mort ?
Ça, ça a été une vraie question qu'on s'est posée, parce que du coup, moi, quand on a écrit le spectacle, je me suis renseignée beaucoup auprès des conseillers funéraires, en fait, de voir comment ça fonctionne et le système mortuaire français. Je suis vraiment restée dans quelque chose de très européen parce que là, l'objectif du spectacle, c'était pas forcément de faire un historique de tous les rituels funéraires du monde, parce qu'il y en aurait eu trop. Il y a beaucoup de civilisations qui vivent les choses de manière beaucoup plus intelligente que nous, ça c'est clair. Après, je me suis aussi posé la question des soins en thanatopraxie, parce qu'il y a de plus en plus là des cérémonies plus écologiques. Il y a beaucoup de questionnements sur comment accueillir la mort aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment, comme je disais, encore un énorme tabou là-dessus. On ne veut pas la voir, et c'est pour ça qu'on fait les soins en thanatopraxie, c'est pour pouvoir voir les morts et ne pas voir la décomposition. Je me suis posé la question, en fait, de parler de ces soins en thanatopraxie, parce que moi-même, encore aujourd'hui, je commence à me dire, mais en fait, est-ce qu'il faut les faire, ces soins en thanatopraxie, parce que c'est plein de produits pas cool qu'on injecte dans le corps, qui polluent après les sols. Enfin, il y a toute une réflexion écologique autour de la mort qui se pose aujourd'hui. J'ai choisi de ne pas traiter ces questions-là parce que ça me faisait rentrer dans des choses. Enfin, je trouve ça beau aussi tout le rap. Enfin, en fait, la scène de la thanatopractrice était déjà écrite et je l'aime beaucoup. En fait, je trouve ça hyper beau, ce tête-à-tête, le soin qu'apporte en tout cas la thanato à la défunte. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser. Enfin, ça pose énormément de questions le monde du funéraire. C'est un monde voilà où il est question de faire beaucoup beaucoup d'argent, où les cérémonies sont pas forcément super bien accompagnées, où il y a quelque chose qui peut être très froid, alors qu'on peut faire beaucoup beaucoup de choses. C'est ça que j'avais envie d'injecter, en tout cas de quelque chose de joyeux et de léger sur la fin, sur la cérémonie. Et c'est vrai que je me retiens un peu de singer plus quand je parle des conseillers funéraires, parce que j'en ai croisé pas mal et franchement, des fois, t'as juste envie de les claquer. Et voilà, donc là, et on m'a dit parce que mon assistante à la mise en scène a été conseillère funéraire sur une année de sa vie, et du coup, elle m'a dit ouais, non, sois pas trop sévère non plus. donc voilà, j'ai essayé de trouver un juste milieu. Mais il y a vraiment ce truc du soin, en fait. Avant, c'est vrai que c'était dans les maisons qu'on gardait, comme je le dis un peu. Et c'était encore, à l'époque de mon arrière-grand-mère, de ce que je raconte, c'était quand même très cadré. Je veux dire, il y avait un lit refroidissant, il y avait eu les soins en thanatopraxie, elle était gardée à la maison. Mais avant, les morts, ils étaient dans la maison et ils se décomposaient dans le lit familial. Et après, il fallait brûler le matelas parce qu'il était pourri. Mais il y a ce truc du soin, en fait, qui est toujours là et que je trouve assez beau quand même, malgré tout, à garder en mémoire, quoi. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. My brain whirl.
got my cell phone down below. Ain't that just like me?
Il est toujours indiqué l'âge à partir duquel on peut voir les spectacles, ce qui est plutôt rare, je trouve. Pour la plupart du temps, les artistes n'y pensent pas vraiment. Est-ce que l'accessibilité des spectacles au jeune public est quelque chose d'important pour vous ?
Oui, c'est un peu mon orientation. Et je trouve que c'est intéressant que vous posiez la question dans ce sens-là, parce que dans le spectacle vivant, on a tendance à catégoriser beaucoup les choses, c'est-à-dire qu'il y a les artistes qui font des spectacles jeunes publics et il y a les artistes qui font des spectacles tout public. Or, moi, c'est vrai, quand je fais un spectacle, je le pense pour tous les publics et je me demande à partir de quel âge il peut être visible. Et c'est vrai que du coup, je suis dans un réseau plutôt dit jeune public. Je vais faire beaucoup de séances scolaires, par exemple, donc en journée, mais avec aussi régulièrement des séances tout public. Je pars du principe que j'écris avant tout pour les enfants. Moi, en tant qu'adulte, par exemple, quand je vois des spectacles ou quand je lis des livres avec mes enfants, j'aime bien m'y retrouver aussi. Donc il y a toujours un peu cette vision un peu globale de tous les publics.
Parlons encore un peu de vos précédentes créations, Moi Canard, et j'ai écrit une chanson pour MacGyver. Vous êtes seul en scène à chaque fois, comme dans On ne dit pas j'ai crevé. Pourquoi cet intérêt esthétique d'être seul sur scène?
En fait, c'est arrivé dans mon parcours de comédienne. À la base, je suis comédienne donc dans la compagnie Le Joli Collectif que j'ai co-créé avec Vincent Collet, qui est aussi metteur en scène. On créait des spectacles à plusieurs comédiens. Jusqu'au jour où, à un moment, j'ai eu envie de tenter le solo pour différentes raisons, plutôt personnelles, on va dire. Et en fait, je me suis sentie très bien dans cette autonomie totale. J'ai eu besoin de me recentrer, en tout cas, sur le solo pour un peu peut-être plus creuser ma pratique et savoir de quoi j'avais vraiment envie, en fait, sur une scène de théâtre. C'était moins clair avant. Et effectivement, depuis que je fais du solo, j'ai trouvé une aisance, une liberté. Alors, je ne vous cache pas que des fois, je me sens très seule, du coup, parce que je porte cette charge mentale, ce stress. Et puis, je ne peux compter que sur moi, en tout cas, même si j'ai une équipe autour de régisseurs, d'assistantes et tout ça. Mais quand même ça peut parfois être lourd, mais c'est encore nécessaire. Après, attention, annonce officielle, dans 3-4 ans, je projette un nouveau projet avec d'autres interprètes. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mis à part le fait que c'est une commande d'écriture à Ramona Badescu, donc l'autrice de Moi Canard.
C'est sur ces confidences que s'achève notre émission. Vous pouvez retrouver le spectacle On ne dit pas j'ai crevé demain soir à 19h au Théâtre de la Paillette. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à 19h.
Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabe.